Nous avons les excuses de Michel Cosset qui donne son pouvoir à Jacques Pellegrin, de Claude Bougaud qui donne son pouvoir à Christine Gezins, de Raymond Repellini qui est actuellement en soins à Clochampirol suite à une intervention, mais elle va bien, et qui donne son pouvoir à Michel Bizacia, d'Hugo Rodriguez d'Assouza qui me donne son pouvoir, de Pierre Achard qui donne son pouvoir à Antoine Di Paolo, et de Lise Lafont qui donne son pouvoir à Mireille Papin. Nous avons deux éléments complémentaires au Conseil. Vous avez trouvé sur table une délibération complémentaire, donc on verra dans le cadre des, comment dire, de la session des détenements via EPORA. Donc on avait Lio et Moreno et vous en avez un sur table concernant Mme Rodriguez. Et puis par rapport à l'ordre du jour, on va regarder bien évidemment le procès-verbal de la séance précédente, l'état des décisions du maire. Mais ce que je vous propose, c'est qu'en point 2, tout de suite, on mette le point 7, École municipale des arts, projet d'établissement, règlement intérieur et règlement des études, qui sera présenté par Éric Bernou et Viviane Adam, ici présents. Donc, en ce qui concerne le procès-verbal de la séance précédente, est-ce que vous avez des observations à formuler, des remarques, des points de rectification? Donc, on va le soumettre au vote. Donc, qui est contre ce procès-verbal? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, le procès-verbal est validé à l'unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, vous avez l'état des décisions du maire. Parmi ces décisions, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a quand même certaines qui sont importantes. La décision avec l'entreprise Technoman pour 17 000 euros, donc c'est une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le déploiement de la vidéoprotection. Donc on va se réunir rapidement pour valider ce marché. Ensuite, en dessous, on a un marché en procédure adaptée avec l'entreprise SRT pour les transports scolaires, périscolaires et de loisirs, pour un montant avec un seuil maximum de 214 000 euros hors taxes. On a également, en date du 28 juin, un emprunt, donc c'est l'emprunt annuel, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Étienne-Carnot, pour un montant donc de 500 000 euros qui était prévu au budget, à un taux fixe de 1,5%. Et en fait, notre interlocuteur nous a dit que dès le mois d'avril, il nous avait, entre guillemets, bloqué cette enveloppe et ce taux. Et quand on l'a vu, il a dit, bon, c'est moi qui n'ai pas réagi, etc. Je vous maintiens le taux de 1,5% fixe. Donc voilà pour les points qui me semblaient, moi, importants. Des questions complètes. Et puis, le dernier point, peut-être le 9 août. Achat à la société Jeanlin e-City d'un véhicule utilitaire Goupil. C'est un véhicule pour les services techniques électriques. Alors, il est d'un montant de 60 312 euros TTC à l'achat, mais on va bénéficier d'un certain nombre de subventions et de reprises. Et normalement, il devrait nous revenir à environ un peu moins de 50 000 euros. Donc on continue, vous voyez, dans nos acquisitions, à passer sur l'électrique quand on le peut, bien évidemment. Des questions par rapport à ces décisions? Donc maintenant, on va pouvoir passer donc au point 7. École municipale des arts, je vais passer la parole. Christine, tu veux dire peut-être un petit mot en introduction? Puis après, on passera la parole à Éric Bernou et Viviane Adam.
Oui, bonsoir, Christine Gessens. Donc, Monsieur Bernou, le directeur de l'École municipale des arts, va nous présenter le projet d'établissement, le règlement intérieur et le règlement des études. Nous avons vu déjà en commission culture, nous avons passé le projet d'établissement, non pas le projet, Éric. Projet d'établissement, c'est bien ça, oui, j'avais un doute. Voilà, donc il vous donnera de plus amples explications.
Bonsoir mesdames et messieurs. Donc je vous propose de commencer par le contenu du projet d'établissement. Le projet d'établissement, c'est un outil qui sert à assurer le suivi d'une structure et puis qui permet aussi de se projeter, évidemment, à l'échelle le plus souvent du mandat municipal. concernant l'évolution et les ajustements qui sont jugés nécessaires. Alors, je vous laisse découvrir le sommaire. Sans doute, vous avez eu l'occasion de découvrir tout ça en amont du Conseil. Je vous propose de passer à la lecture du document. Alors, en premier point, il conviendrait de remettre un petit peu le cadre général d'une structure comme l'EMA quant à son existence et surtout son fonctionnement. Donc, Saint-Priant-Jarret, qui est situé à la limite nord de Saint-Étienne, 6200 habitants, propose différents services municipaux d'action sociale, d'enfance, de jeunesse, de sécurité publique, de vie associative et de culture. Pour la politique culturelle, celle-ci s'articule autour de trois axes, la diffusion de spectacles, la lecture publique, l'enseignement artistique, mise en œuvre respectivement par le NEC, la médiathèque André Chaise, l'école municipale des arts. L'école des arts municipale a été créée en 1985 afin, je cite, de proposer aux enfants de la commune une formation musicale et artistique de qualité. La structure a également pour objectif d'axer prioritairement ses actions sur l'apprentissage des instruments à vent et à percussion dans le but de favoriser les pratiques collectives et de créer à moyen terme une harmonie municipale capable de rayonner sur la commune et dans la région. C'était les termes qui avaient été énoncés par les élus de l'époque. Alors ensuite, voici les missions générales de l'établissement, donc le cadre un petit peu plus officiel et réglementaire. L'offre pédagogique de l'établissement, elle s'inscrit dans le cadre des textes de référence, à savoir le schéma national d'orientation pédagogique et la charte de l'enseignement artistique spécialisé, qui sont des documents qui sont émis par le ministère de la Culture, ainsi que le schéma départemental d'enseignement artistique de la Loire. Juste une petite parenthèse pour vous préciser que depuis 2004, ce sont les départements qui déterminent la politique des enseignements artistiques. Donc chaque département élabore un schéma départemental d'enseignement artistique. Et c'est le département, on aura l'occasion de le voir plus loin, qui à sa guise, selon les modalités qui juge les meilleures, qui fixe le cadre de fonctionnement du réseau départemental et puis surtout qui fixe les conditions de financement des établissements. Alors, les objectifs pédagogiques ainsi définis sont les suivants. Le développement des pratiques collectives, le renforcement de la place de la culture musicale et de l'innovation pédagogique, favoriser la transversalité entre les disciplines, établir un partenariat avec l'éducation nationale, le soutien aux pratiques amateurs en tant que lieu ressource et la sensibilisation et l'élargissement des publics par une diversification de l'offre. L'offre pédagogique de l'établissement s'est développée progressivement afin de répondre le plus possible à la demande et propose ainsi aujourd'hui quatre disciplines, la musique, la danse, le théâtre et le dessin-peinture. L'EMA entretient depuis sa création un partenariat spécifique avec l'Harmonie de Saint-Priant-Jarret, association musicale amateur, vers laquelle sont orientés les musiciens de l'école, les instrumentistes à vent et à percussion, afin de poursuivre leur pratique artistique à un niveau supérieur. Alors, voici une présentation de l'existant concernant les publics et la fréquentation de l'établissement sur les trois dernières années scolaires, globalement et par discipline. Donc, on avait en 2019-2020 350 élèves, puis 310, puis 273 en 2021-2022. Alors, vous voyez également sur les lignes dessous la répartition par discipline avec depuis pas mal d'années une dominante sur l'activité musique, sur la demande, et puis aussi, en tout cas jusqu'aux aléas, on va dire, liés à la crise sanitaire, une bonne dynamique au niveau des cours de danse. Et puis, aussi une croissance, un renforcement de la demande en termes de théâtre et de dessin-peinture. Alors, effectivement, les additions sont curieuses si vous partez par rapport au total. En fait, il se trouve que de plus en plus, on a un certain nombre d'élèves cette année qui pratiquent plusieurs activités au sein de l'établissement. Donc, initialement créée à destination des enfants de la commune, l'école municipale des arts s'adresse en priorité au public jeune, mais tend depuis plusieurs années à s'ouvrir davantage vers le public adulte par le développement de ses activités. Si vous le souhaitez, j'aurai quelques chiffres pour illustrer. Comme beaucoup de structures identiques, l'EMA voit ses effectifs baisser pour ce qui concerne la population étudiante, malgré la présence de pôles d'enseignement supérieur dans l'agglomération stéphanoise. C'est-à-dire que ce qui est constaté au sein de l'EMA est constaté dans la plupart des structures similaires, c'est-à-dire qu'après le bac, la plupart, une partie en tout cas, plus ou moins importante des élèves, s'en va faire les études, et souvent dans d'autres villes. Alors, à ce jour, la fréquentation de l'EMA par tranche d'âge se présente comme suit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition par âge. Alors, évidemment, en majorité, c'est des enfants jusqu'à la fin, des enfants de maternelle jusqu'à la fin du secondaire, et un petit peu les étudiants. Ce qu'il faut signaler, c'est que depuis le dernier projet d'établissement qui a été voté en octobre 2015, la part des élèves adultes a augmenté dans l'établissement et de mémoire, on est passé en 2015 à 26 et on était l'année dernière à 43. Ensuite, par ailleurs, la structure, elle attire par son offre variée les usagers des communes environnantes. Alors là, vous avez un petit camembert qui vous montre la part de Saint-Prié et puis la part des autres communes. Alors, souvent, pour ne pas dire chaque année, les habitants de l'Étra sont les premiers habitants extérieurs. Avant, c'était La Tour, maintenant, c'est Saint-Étienne. Alors, ça dépend. Les deuxième, troisième, quatrième places, ça tourne suivant les années. Donc, l'année dernière, c'était dans l'ordre Saint-Prié, L'Étra, Saint-Étienne, La Tour, Villars. Et on a à peu près, chaque année, une trentaine d'élèves qui sont originaires de Villars. Donc, chaque année, on a à peu près, en termes de fréquentation, on a entre 60 et 70% de Mounards, une moyenne de 2/3 et puis 1/3 d'extérieur. Même dans des communes, d'ailleurs, qui ont une activité d'enseignement artistique, je pense à La Fouillou, je pense à Villars, et il se trouve que la diversité des offres pédagogiques de l'EMA permet aussi d'attirer ce public qui ne trouve pas forcément des activités qui lui conviennent dans les communes. Alors, les activités pédagogiques. Alors, je vais vous présenter la liste des activités par discipline. Donc, pour l'activité musique, il y a toute une section éveil et initiation. Éveil musical, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, à partir de 6 ans, un atelier de découverte des instruments à vent et à percussion. Ensuite, vous avez ci-dessous la liste des disciplines instrumentales. Flûte traversière, flûte à bec, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, percussion, violon, guitare, guitare électrique, basse électrique, piano. Ensuite, vous avez ce qui fait un petit peu la marque de fabrique de la maison, c'est-à-dire la diversité des pratiques collectives. Donc vous avez à la fois des ensembles instrumentaux avec croque-noc, la portée ouverte. Alors ce sont deux classes d'orchestre des niveaux 1 et 2. Les élèves qui font croque-note et la porte est ouverte, l'étape suivante, c'est quand ils ont le niveau suffisant pour entrer à l'harmonie municipale. Ensuite, vous avez deux ensembles, flûte à bec et violon, en majorité, Garkline, Fiddle et les menus plaisir. Vous avez également un groupe de musique actuelle, deux ensembles de claviers et un ensemble de guitare. Pour les ensembles vocaux, une chorale enfant, un atelier vocal ado et un atelier vocal adulte. Ensuite, pour la danse, il y a deux esthétiques chorégraphiques. Il y a la danse jazz avec les différents niveaux, éveil, initiation, début technique, enfant, intermédiaire et avancé. Donc, il commence à partir des 4 ans. Et puis, le hip-hop, deux niveaux, un niveau initiation et un niveau avancé. Pour le théâtre, il y a deux niveaux, un niveau enfant, un niveau ado. Je précise que les cours de théâtre qui ont lieu le mercredi après-midi ont lieu sur la scène du NEC, ce qui permet aux élèves de pratiquer dans de bonnes conditions. Et enfin, deux groupes de dessin-peinture, un groupe enfant et un groupe ado. Et depuis le dernier projet d'établissement, ce sont deux disciplines où la demande s'est accrue, ce qui nous a permis d'ouvrir deux groupes. Alors ensuite, Outre les activités d'enseignement, l'EMA propose des activités de diffusion, alors qui sont de différentes natures. Vous avez des auditions thématiques, exemple musique et littérature, le Brésil. Elles concernent principalement les élèves de musique. Ensuite, vous avez les projets transversaux qui réunissent plusieurs activités, exemple musique et dessin ou musique et danse pour un conte musical. Vous avez après en troisième les manifestations en partenariat, exemple ce que l'EMA fait en partenariat avec le NEC et la médiathèque pour le festival Inattendu. Et enfin, les spectacles de fin de saison, par exemple la soirée théâtre ou les spectacles de danse qui ont lieu au NEC au mois de juin. Ensuite, quelques informations concernant le personnel. Un effectif total de 19 agents, dont 2 postes administratifs, un directeur et une responsable administrative, un poste d'entretien des locaux, 16 postes d'enseignants artistiques. Sachant qu'il faut préciser que les cours de hip-hop sont dispensés par un intervenant qui opère dans le cadre d'une convention signée avec une entreprise de production artistique. Voilà, donc tous les ans, on signe une convention en partenariat avec une société de production pour les prestations des cours de hip-hop. Ensuite, les partenariats structurels. Il y a le partenariat avec le milieu scolaire depuis très longtemps. Les interventions sont assurées donc par un enseignant de l'EMA dans les 3 écoles de la commune pour, en ce qui concerne l'an dernier, 15h20 d'intervention hebdomadaire. Donc, ce qui fait, c'est que je crois à une exception près à Georges Sand, par choix de l'enseignante, toutes les autres classes sont concernées par l'intervenant milieu scolaire. Deuxième partenariat avec l'Harmonie de Saint-Priant-Jarret, qui est créée en 1993. Donc elle accueille les élèves de l'EMA en instruments avant à percussion, qui conjuguent ainsi pratique collective de leur cursus et engagement associatif. Ce partenariat avec l'Harmonie permet de faire monter à l'Harmonie entre guillemets des élèves qui arrivent à un certain niveau. Donc l'Harmonie, c'est ce qui dans leur cursus, ça constitue leur pratique collective. Et l'avantage, c'est qu'ils arrivent à un âge, souvent à partir de l'adolescence, où ça leur permet de découvrir le monde associatif. Les autres partenariats. Alors, un partenariat existe avec la mairie de Lettra, en contrepartie de la subvention annuelle de 9 000 euros versée à la mairie de Saint-Priest par la mairie de Lettra. Les usagers résidant à Lettra sont prioritaires sur les autres usagers extérieurs pour s'inscrire à l'EMA. Donc il s'agit d'une priorité à l'inscription, mais il n'y a aucune conséquence sur les tarifs. C'est-à-dire que les usagers de Lettra, on leur affecte des tarifs comme les usagers extérieurs. Voilà, c'est juste une priorité sur les autres extérieurs au moment de l'inscription. Les réseaux. L'EMA s'inscrit dans le cadre, comme je disais tout à l'heure, du réseau d'enseignement artistique de la Loire qui intègre les enseignements de la musique, de la danse et du théâtre. Ça veut dire que le dessin, quand il y a les démarches de subventionnement, l'activité dessin n'est pas subventionnée dans le cadre du réseau. À ce titre, donc les élèves en musique inscrits en cursus diplômant présentent les examens départementaux de fin de cycle 1 et de cycle 2 en formation musicale et en discipline instrumentale, avec d'excellents résultats, entre parenthèses. Divers stages musicaux sont destinés aux élèves et sont organisés par le département. Et puis des formations sont proposées aux enseignants. Donc régulièrement, il y a par exemple un stage départemental autour des cuivres qui a lieu chaque année dans une ville différente. Il y a également des formations, par exemple sur les méthodes actives en ce qui concerne l'éveil qui a eu lieu, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans avec nos collègues de la Talaudière qui a pu réunir des professeurs du département. Alors, la partie suivante concerne le diagnostic sur la situation de la structure. Alors, un bilan rapide du projet d'établissement 2015-2020. 4 axes avaient été définis. Améliorer l'offre d'initiation, toucher de nouveaux publics par le biais de partenariats, développer la création par des démarches de projet et intensifier les actions de diffusion sur un périmètre élargi. Différentes actions ont été ainsi menées. L'élargissement de l'offre à destination du public adulte par la mise en place d'un cursus non diplômant adulte et d'un atelier vocal adulte. Les animations de la vie de la commune, de la vie communale, par exemple le marché de Noël ou pour le Tour de France. Les auditions en partenariat avec la médiathèque pour le festival Inattendu. Les concerts qui ont lieu à l'ETRA, notamment le concert de l'année dernière, musique et littérature, ou encore la soirée vocale en partenariat avec la chorale musique à l'ETRA. Je signale simplement que l'année prochaine, il y aura un spectacle à l'ETRA sur le cirque qui aura lieu salle Rouchon, ce sera le 24 mars, sur le thème du cirque. Et enfin, l'exposition des élèves de dessin-peinture au NEC qui a eu lieu en juin dernier. Alors, sur l'évolution et l'adaptation de l'offre de l'établissement. Depuis sa création en 1985, l'établissement a progressivement développé son offre pédagogique en musique par la création de classes instrumentales, de cursus pédagogiques, d'ateliers, de découvertes et de pratiques. En danse, avec la danse jazz en 2006 et le hip-hop à partir de 2008. Et en théâtre et en dessin à partir de 2008. L'offre actuelle variée permet à l'EMA de rester attractive pour un public de résidents et d'extérieur. Concernant les attentes du public. Alors, l'évolution des pratiques culturelles, notamment par la diversification des offres de pratiques, intervient de plus en plus dans le quotidien du public. Les offres de cours en ligne, la place de l'outil numérique amène à interroger la démarche pédagogique. Je vais enchaîner, puis après je vous ferai simplement quelques précisions. Concernant la crise sanitaire, dès le début de la crise sanitaire en 2020, le lien pédagogique hebdomadaire a été maintenu grâce à divers outils, des cours en visioconférence, notamment pour les cours individuels d'instruments, la mise à disposition de contenus pédagogiques sur des plateformes en ligne et la transmission de vidéos de travail chorégraphique pour la danse. Ce fonctionnement a été mis en place à chaque période de fermeture de l'établissement en application des directives sanitaires. Néanmoins, malgré la réouverture de l'établissement dans des conditions normales à la rentrée 2021, la fragilisation du lien pédagogique a eu un impact sur la motivation des usagers, confirmé par une baisse de la fréquentation. Il y a eu, comme dans pas mal de structures, un effet Covid, à savoir, malgré le lien pédagogique qui avait été conservé pendant les périodes de fermeture, il y a eu une baisse de la motivation. Un exemple peut être cité. Pour la danse, les chorégraphies étaient filmées par la professeure toutes les semaines et envoyées par mail aux familles. Mais malgré ça, la motivation a baissé. Et ce qui fait, c'est que malgré ce lien, malgré ces outils qui ont été mis en place, ça a eu une incidence, notamment en danse, sur la fréquentation l'année dernière. Concernant les enjeux pédagogiques. Alors, l'établissement fait face à l'évolution des attentes des usagers. Un public de plus en plus exigeant sur la qualité du service rendu. Des élèves moins investis et qui s'inscrivent de moins en moins dans une démarche à long terme, c'est-à-dire que là où avant les élèves s'inscrivaient dans une démarche projetée en tout cas sur ce qu'on appelle le cycle, au moins 4-5 ans, au jour d'aujourd'hui, on n'est plus sur une démarche à court terme. Donc ça a une incidence sur l'investissement toutes les semaines des élèves. Et la dernière chose, la demande de plus en plus importante d'une simple pratique individuelle au détriment d'une démarche d'apprentissage. Cette partie-là est de plus en plus présente, ce n'est pas la généralité évidemment, mais simplement on remarque de plus en plus des élèves qui viennent pour faire une pratique hebdomadaire, comme ça pourrait être une pratique sportive par exemple, ou une autre pratique culturel, manuel, que sais-je. Et du coup, moins, plus dans une pratique hebdomadaire, dans le cadre d'une fenêtre disponible dans leur emploi du temps, plutôt que dans une démarche d'apprentissage, et encore moins à long terme. Donc, du coup, dans le rendu par rapport au professeur, dans le cadre de la transmission pédagogique, il y a des choses qui sont quand même en mouvement et qui évoluent, qui obligent éventuellement, évidemment, à s'interroger. En tant qu'établissement d'enseignement artistique, l'École municipale des arts s'efforce de mettre en avant les actions suivantes. Premièrement, le face-à-face pédagogique. Ça veut dire le lien, ce pourquoi d'ailleurs les enseignants sont formés, hein, ça s'appelle le face-à-face pédagogique. La transmission des savoirs et enfin une approche collective. Alors, les perspectives. Alors, dans le cadre du projet d'établissement, une réflexion a lieu avec l'équipe pédagogique autour d'objectifs généraux. Alors, d'abord, concernant la construction artistique personnelle. La pratique doit être envisagée comme une source d'épanouissement pour l'élève. L'élève doit pouvoir développer une méthodologie de travail. L'élève apprend à faire ses choix artistiques, à exprimer ses goûts. L'élève doit comprendre les divers répertoires abordés. L'élève doit connaître le fonctionnement général de son instrument pour l'activité musique. Sur le plan collectif, l'élève apprend à échanger avec le groupe et le public. L'élève apprend à développer sa curiosité, l'écoute, l'ouverture aux autres. Concernant la production artistique, l'élève s'inscrit dans une démarche de pédagogie de projet. L'élève enrichit son expérience grâce à des rencontres avec des artistes invités. Voilà les objectifs généraux qui ont été définis par l'équipe pédagogique. Alors, en ce qui concerne l'évolution de l'établissement, il y a trois axes qui ont été définis. Le premier, c'est de regrouper et renforcer les pratiques musicales collectives. Le développement des diverses pratiques collectives au sein de l'établissement a enrichi l'offre de créneaux hebdomadaires. Cependant, cette démarche a eu pour conséquence en interne, premièrement, des ensembles qui étaient centrés sur une même classe instrumentale. Deuxièmement, des effectifs plus ou moins réduits dans certains ensembles. Troisièmement, une juxtaposition de créneaux hebdomadaires au détriment d'une démarche transversale. La transversalité, c'est une notion qui est beaucoup mise en avant par les textes nationaux depuis un certain nombre d'années. C'est pourquoi le regroupement de certaines pratiques musicales collectives sera envisagé à partir de la rentrée 2022 pour permettre de favoriser une approche globale et transversale de la pratique collective, de renforcer la concertation pédagogique, de mutualiser les moyens matériels et de donner plus d'impact aux projets réalisés. Ensuite, point suivant, deuxième axe, l'homogénéisation des cursus musicaux. Alors, dans le cadre du projet d'établissement 2008-2014, différents cursus musicaux, à savoir cursus diplômant et cursus non diplômant, ont été mis en place. Leurs contenus sont précisés dans le règlement des études. Après une longue période de mise en œuvre, excusez-moi pour la faute, de ces cursus, le constat est que les différences de temps de cours, aussi bien en instrument qu'en formation musicale, influent sur le niveau des élèves et à terme sur leur capacité à envisager une pratique autonome, basée sur des compétences techniques, des connaissances théoriques, une culture musicale, à travers notamment différents répertoires. Un élève qui est en premier cycle, il a 30 minutes de cours par semaine. Le même en non-diplômant, il a 20 minutes. Par exemple. C'est pourquoi, pour les trois premières années musicales, la mise en place d'un tronc commun des enseignements musicaux est envisagée. Au-delà, l'élève pourra choisir entre un cursus diplômant et un cursus rebaptisé cursus projet. Vous avez le schéma sous les yeux. Alors attendez, il faut que je fasse un zoom en un. Donc effectivement, on s'est aperçu que dès les premières années en cursus non diplômant, du fait que le temps de cours était moins important, on avait un niveau des élèves qui était moins probant que les mêmes élèves qui étaient partis en diplômant, sachant qu'on a en musique 2/3 des élèves qui sont en non-diplômant. Donc, l'idée avec l'équipe pédagogique, ça a été de corriger un petit peu ces différences de niveau dès les premières années d'apprentissage et de pratique pour avoir, au bout de 4 ans seulement, des élèves qui ont bénéficié des mêmes contenus. D'où l'appellation tronc commun, avec un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Au niveau 4, l'élève pourra choisir entre passage en ce qu'on appelle le 1C4, c'est-à-dire cycle 1, quatrième année, pour passer à terme son examen départemental de fin de premier cycle, ou alors, suite à une évaluation, continuer dans un cursus baptisé cursus projet, avec un contenu qui est différent et puis surtout une approche qui est beaucoup plus par projet pédagogique sur des périodes déterminées. Vous avez l'exemple de 2 semestres par an en termes de rythme de projet. Parallèlement à ce nouveau fonctionnement, les contenus pour chaque niveau pourront être définis. Concernant les notions à aborder, un socle commun d'acquisition a déjà été élaboré. Concernant la formation musicale, il va être développé à propos des pratiques collectives. Des répertoires communs, des répertoires communs ont déjà été déterminés, ils sont encore à détailler. Simplement, une partie de cette rubrique concernera l'improvisation, puisque la plupart des enseignants en musique ont, par leur cursus personnel et par leur pratique, très peu côtoyé l'improvisation, qui est plutôt liée aux enseignants qui viennent du jazz et des musiques actuelles ou éventuellement des musiques traditionnelles. Hein. Et donc, il y a un travail qui va être fait par l'équipe sur tout ce qui est lié au travail avec les élèves, à l'improvisation, puisque, comme on dit souvent, l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Alors, point suivant, les projets qui seront menés en transversalité et quatrièmement, les thématiques de travail. Ça, ce sera, j'allais dire, l'étape numéro 2. L'étape numéro 1, c'est celle de cette rentrée avec, comme j'ai dit tout à l'heure, le regroupement des pratiques collectives. L'étape numéro 2, ça va être le détail des contenus niveau par niveau. Enfin, la répartition des élèves dans chaque niveau pourra être abordée afin d'instaurer plus de cohérence et de progressivité dans le parcours de l'élève qui pourra être mieux accompagné. Pour schématiser, depuis un certain nombre d'années et ces différents cursus, on a dans la plupart des pratiques collectives des niveaux qui sont disparates, et des pratiques collectives nombreuses qui font qu'on a des effectifs très inégaux, ce qui rend la pratique, la lisibilité, la progressivité des pratiques collectives pas toujours évidente à cerner. Donc le but, c'est d'essayer de regrouper, mais par contre, si on regroupe des élèves, il faut aussi redéfinir le cadre et surtout l'évolution progressive des élèves. À terme, il s'agirait, on verra à terme ce qui se passe, c'est d'avoir, par exemple, un niveau de pratique collective, par exemple, par jour de la semaine, différent. Mais l'avantage, c'est qu'il y aura plus d'élèves, il y aura des professeurs qui travailleront plus en concertation pour un travail qui sera beaucoup plus impactant. Ensuite, développer les actions à destination du public scolaire. Alors, dans un premier temps, il serait question d'amplifier les actions qui sont déjà menées. L'école municipale des arts assure les interventions musicales en milieu scolaire dans les 3 écoles de la commune dans le cadre du programme d'éducation musicale de l'éducation nationale. Les pratiques concernent le chant et les petites percussions autour de thèmes définis en début d'année par les équipes enseignantes. Depuis la rentrée 2013, un orchestre à l'école a été mis en place à l'école Jean Massé, en classe de CE2, qui concernait en 2021-2022 la classe de CM1-CM2. Juste un petit point pour vous préciser comment se déroule le projet. Il se déroule en 2 phases. Une première phase où la séance est une séance d'une heure. En tout cas pour l'orchestre à l'école. Les séances en milieu scolaire, les interventions standards, ce que j'appelle standard, en milieu scolaire, c'est 45 minutes hebdomadaires. La séance se divise en 2 parties. Par ateliers instrumentaux, les élèves essaient un instrument nouveau toutes les 2 semaines. Puis, une partie collective où il y a un travail sur les rythmes corporels. Les élèves choisissent en fin de période, une fois qu'ils ont essayé tous les différents instruments. Ils choisissent un instrument qu'ils pratiqueront jusqu'à la fin de l'année scolaire. S'ensuit la période numéro 2, qui se situe à peu près au mois de janvier, fin janvier, où la séance sera divisée à partir de là en deux parties. Premièrement, par ateliers instrumentaux avec un travail technique et des morceaux par une approche du codage musical, très sommaire. Et une partie collective où il y aura un travail en groupe des morceaux choisis. Le répertoire est construit à partir du thème retenu en début d'année. Chaque séance dure une heure. Le parc instrumental utilisé est prêté par l'École municipale des arts. À partir de la rentrée 2022, il sera proposé aux deux autres écoles, Jules Ferry et Georges Sand, de former un orchestre dans une classe définie avec l'équipe enseignante. Je finis juste la phrase dans la mesure des disponibilités de temps pour les enseignants. Donc voilà, donc là on est en phase d'inscription. Donc j'allais dire, le contenu sera précisé à la fin de nos inscriptions pour préciser les enseignants qui interviendront. L'EMA, dans son rôle de médiation culturelle, pourra proposer d'autres actions de sensibilisation. Les nouvelles actions qui sont envisagées, des concerts scolaires autour de thématiques travaillées en amont en classe, l'EMA pourra proposer des concerts aux écoles primaires, par exemple un concert autour de la thématique du lien entre la relecture du répertoire de la Renaissance par des compositeurs du XXe siècle. Voilà, c'est une idée, avec des morceaux qui ont été repris par des compositeurs du XXe siècle. Les autres actions, dans le cas des interventions musicales en milieu scolaire, des présentations d'instruments pourront être organisées et un accompagnement instrumental des chants travaillés pourra être mis en place. Ça a été le cas notamment au mois de juin avec les élèves de l'école Georges Sand. Conclusion, le présent projet d'établissement s'inscrit dans le cadre du mandat municipal 2020-2026. Une évaluation à terme des actions envisagées permettra de mesurer leur impact sur le fonctionnement pédagogique, sur la vie de l'établissement et son rôle dans la vie culturelle du territoire.
Mais je vous remercie de cette présentation complète de ce projet d'établissement. J'ai une petite question. Vous êtes en pleine période de montée en puissance des inscriptions. Est-ce que vous avez déjà une tendance? On a bien compris que 2020-2021, ça a été progressivement l'effondrement. Est-ce qu'actuellement, vous pouvez dire qu'il y a des frémissements pour une reprise? On a bien compris que le profil, je dirais, de consommateur des élèves avait évolué, ou aujourd'hui on ne s'inscrit plus forcément dans une réflexion sur le moyen terme. C'est tout de suite, je veux jouer d'un instrument tout seul, et puis j'arrête quand je veux et je reprends quand je veux. Je schématise, mais c'est un petit peu ça. Quelles sont les tendances actuellement?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en nombre d'inscriptions, au jour d'aujourd'hui, on est à 235. Il est clair que certaines classes ont toujours été plus demandées que d'autres. Par exemple, le piano. Le violon a une forte demande cette année. La danse aussi, la danse revient, les demandes remontent à la période où on se trouve. Et puis qui c'est? Ah oui, l'éveil. Sachant que cette année, il va être question à nouveau, on va tout faire pour faire en sorte que l'intervenante qui s'occupe des éveils, en tout cas une des intervenantes, puisse retourner faire des interventions régulières à la crèche. Puisque le public de la crèche, c'est le public qui s'inscrit ensuite en éveil 3 ans et qui continue à l'EMA. Donc ça nous permet effectivement de toucher ce public très très jeune. Voilà, donc globalement, en termes de, si on raisonne en chiffres sur l'ensemble des disciplines, c'est une période d'inscription qui a des meilleurs chiffres que l'an dernier.
Le retard à terre cette année que l'an dernier.
Rassurez-vous, c'est partout.
Ah, d'accord.
Même à l'école et à la cantine.
Oui, c'est vrai que d'année en année, le constat est de plus en plus marqué.
En tout cas, merci pour cette présentation exhaustive. On voit bien les choses. Enfin, c'est vrai que moi-même, je découvre un petit peu votre façon précise de fonctionner. L'ouverture sur les écoles, ça me semble aussi très important. Pour d'autres raisons que la dimension artistique. Qui dimension collective, etc. C'est vraiment très, très bien. Donc maintenant, vous allez nous présenter le règlement intérieur. Peut-être simplement axer votre propos sur ce qui change.
Oui, absolument. Alors, par rapport au règlement intérieur précédent qui avait été voté en décembre 2020, les changements concernent quelques petits articles, notamment concernent les organes consultatifs, c'est-à-dire le conseil d'établissement. Jusqu'à présent, le conseil d'établissement était constitué de membres de droit, c'est-à-dire les élus, des élus, directeurs et responsables pédagogiques, et puis ensuite des représentants de l'équipe enseignante, et de représentants des parents d'élèves et de représentants des élèves. Il y avait tout un processus d'élection des représentants des parents d'élèves, des représentants des élèves, qui était conséquent. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que le conseil d'établissement était, on va dire, peu attractif pour les usagers. Donc du coup, c'est un organe qui finalement n'était pas forcément toujours très sollicité. Et puis surtout, le processus d'élection était très très lourd avec très peu de candidats. Il fallait aller chercher les parents qu'on connaissait, dont on savait l'engagement, pour pouvoir trouver des gens qui se proposent d'y siéger. C'était la même chose pour les élèves. En fait, peu d'intérêt pour cet organe de concertation de la part des usagers en général. Donc l'idée, c'était de se dire en faire un organe interne. J'ajoute simplement que la forme qui est proposée, c'est une forme qui existe notamment dans d'autres écoles similaires des communes voisines. Je pense à Roche-la-Molière, par exemple. Voilà, ça simplifierait le fonctionnement. Il y aurait toujours des représentants des enseignants qui seraient élus par leurs collègues pour 2 ans, mais simplement, j'allais dire, un effectif qui serait allégé pour un fonctionnement qui soit, j'allais dire, plus direct et plus souple. Simplement, sur le conseil pédagogique, c'est l'article 2.1, il y a une phrase qui avait été proposée pour être ajoutée. Donc le conseil pédagogique, c'est l'ensemble du corps professoral. Une phrase qui serait rajoutée qui s'intitule il statue également sur l'orientation des élèves. De façon à ce que ce soit écrit noir sur blanc, suivant les cas, il est arrivé par le passé que certains cas posaient problème dans le sens où finalement le respect du cursus nous obligeait à être strict dans le respect des règles. Donc du coup, dans certains cas, le dernier mot viendrait, j'allais dire, au corps professoral, à l'ensemble des enseignants pour vraiment fixer le suivi de l'élève au sein de l'établissement. Là, pareil, dans le but d'avoir une certaine souplesse. Ensuite, article grand 4, numéro 4, concernant l'assiduité. Une phrase est proposée pour être rajoutée. L'assiduité des élèves est également requise dans le cadre des manifestations programmées par l'EMA. Par rapport à ce qui vient d'être dit, on se retrouve à constater de plus en plus fréquemment un manque d'engagement sur les manifestations qui sont proposées, qui sont normalement là pour mettre en valeur le travail, l'investissement des élèves. Et on se retrouve, on l'a vu notamment sur certains projets l'année dernière, je pense quand il y a eu musique et littérature, qui était un concert un peu conséquent, on l'avait fait à l'ETRA, je me souviens, on avait des élèves qui ne venaient pas aux répétitions et qui nous ont dit au dernier moment, je ne sais pas si je viens au concert. Voilà, ça c'est de plus en plus fréquent. Donc du coup, ça ne coûte rien de le rajouter, même si après, au final, c'est toujours les familles qui décident. Mais c'est vrai qu'on constate d'une manière générale, des fois, un manque d'investissement des élèves pour ce qui concerne vraiment la finalité de leur travail, c'est-à-dire la manifestation publique. Voilà, en gros, ce qui concerne le règlement intérieur. Sachant qu'il avait été rajouté... Juste une chose, en décembre 2020, il avait été rajouté, je crois à votre demande, monsieur le maire, que les personnes qui n'ont pas acquitté toutes leurs cotisations l'année précédente ne pourront pas se réinscrire l'année suivante. Donc, vu qu'on est en période d'inscription, on a eu certains cas, effectivement. Alors, pour le règlement intérieur, c'est tout. Ensuite...
Sur les deux premiers documents, donc projet d'établissement règlement intérieur, est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision à formuler? Bon, ben, on continue alors.
Alors, le point suivant concerne le règlement des études, où là, il y a moins de choses à revoir. La première chose à revoir, ça rejoint ce qui a été présenté dans le projet d'établissement concernant la réorganisation notamment des pratiques collectives dans le cadre du prochain schéma, c'est-à-dire en ce qui concerne le cursus non diplômant, au lieu d'avoir le temps de pratique collective et de formation musicale passera de 1h10 à 1h30. Voilà, simplement la durée de la séance. L'idée aussi, c'était d'un niveau pratique pour les familles, d'avoir sur l'ensemble des jours de la semaine des créneaux qui soient les mêmes. On avait des fois, alors à 10 ou 20 minutes près, suivant les jours, par exemple, on avait un cursus non diplômant, un cours qui démarrait à 17h. Le lendemain, c'était le même niveau, mais à 17h20. Voilà. On a essayé de réfléchir avec l'équipe pédagogique, d'avoir une lisibilité sur la semaine, sur tout ce qui est cours collectif, à savoir deux créneaux. Premier créneau, ce sera à 17h, 18h30, tous les jours. Et le deuxième créneau, par exemple, pour les cours adultes ou pour les cours avec les élèves plus grands, un deuxième créneau qui est 18h30, 20h. Voilà, donc histoire d'avoir des créneaux beaucoup plus lisibles et qui soient avec des horaires qui soient les mêmes toute la semaine. Le deuxième point, ça concerne le théâtre. Voilà, simplement, ce qui est précisé, c'est que le théâtre qui est proposé à des élèves âgés au minimum de 9 ans. Et préciser aussi qu'il y a deux groupes, un groupe enfant et un groupe ado. Voilà. Puisque c'est... Ado. Voilà, on s'arrête, au jour d'aujourd'hui, on s'arrête au lycée. Voilà. En fait, on a un premier groupe de 9 à 14 et un deuxième groupe de 15 à aux années lycée. Puisque ça permet aussi, puisqu'on a des demandes... un petit peu, voilà, de toi, des fois. Il y a quelques années, une dame qui nous avait demandé, sa fille a 3 ans et demi, les fait rire à la maison, est-ce que vous pourriez la prendre en cours de théâtre? Voilà. Voilà. Et voilà, donc, c'est vrai que, pour être tout à fait précis, pour ce qui concerne le théâtre, on a eu une demande à 5 ans, l'autre jour, cet après-midi à 5 ans. Donc, c'est bien de préciser aussi pour les familles que la pratique du théâtre, c'est déjà le fait d'apprendre à évoluer dans un groupe, d'apprendre à bouger sur une scène, d'apprendre aussi un texte, puisque les textes sont appris par cœur. Donc, l'âge de 9 ans paraissait utile. Et on a eu des demandes d'adultes aussi. Alors après, c'est... Voilà, donc pour l'instant, peut-être c'est une réflexion qu'il faudra avoir dans quelques temps. Voilà, en ce qui concerne le règlement des études.
Avez-vous des questions sur ces trois documents qui structurent, on comprend bien, le mode de fonctionnement de l'École municipale des arts? Donc il y a une dimension, comme vous l'avez vu, un petit peu stratégique, politique, qui se projette dans l'avenir. Bon, il y a un règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement, et puis la direction des études. De façon beaucoup plus pratique. Ce que je retiens, c'est cette cohérence et cette visibilité que vous voulez apporter dans les différents types d'enseignement. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être pouvoir passer au vote. Donc, je vais reprendre la formulation du document initial. Donc, pour maintenir et garantir un enseignement de qualité, l'École municipale des arts a élaboré une série de documents relatifs à son bon fonctionnement auprès des diverses institutions et des usagers. Ces documents sont le projet d'établissement, le règlement intérieur et le règlement des études. Ces derniers sont également destinés à compléter le dispositif de l'EMA dans le cadre du réseau départemental des enseignements artistiques. Il convient donc aujourd'hui de renouveler le projet d'établissement, le règlement intérieur et le règlement des études de l'École municipale des arts. Le projet d'établissement a été présenté en commission culture le 5 juillet dernier, donc je pense validé par la commission. Donc je vous demande de bien vouloir approuver ces documents. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc les trois documents sont adoptés à l'unanimité. Merci encore de votre présentation et puis vous pouvez retrouver votre disponibilité. Donc on revient à ce qui était initialement le point 2. Jacques, tu veux présenter le dossier du ciel ou je le fais ? Je le fais ? Alors attends. Alors vous savez que régulièrement on vous présente les dossiers du ciel pour tout ce qui est travaux que l'on sous-traite. L'avantage de passer par le ciel, c'est qu'on a quand même une assistance technique sur ces dossiers et puis des remises budgétaires. Donc conformément à ces statuts, l'article 2 notamment, et aux modalités définies par son comité et son bureau, le ciel, territoire d'énergie Loire, peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Donc on a trois types d'interventions sur le secteur de la rue de Champirol, qui va donc de la rue Albert-Raymond à la rue du Général de Gaulle. Donc le premier poste, c'est l'éclairage de la rue Champirol. Donc pour 6 547 € de travaux hors taxes, et ça nous coûterait 6 023,96 €. Ensuite, il y a la dissimulation des réseaux, donc rue de Champirol, 39 880 €, avec une remise, donc un coût de 80%, mais c'est pris en charge par Saint-Étienne Métropole. Et enfin, la gestion des télécoms sur également la rue de Champirol pour 16 180 €, pris en charge par Saint-Étienne Métropole. Donc voilà, c'est... Alors pourquoi Saint-Étienne Métropole ? Parce que sur cette typologie de travaux, c'est eux qui payent, si vous voulez, mais de toute façon, ils l'imputent bien évidemment sur nos enveloppes. Ces contributions sont indexées sur l'indice TP12. Donc je vous demande de bien vouloir demander au ciel, territoire d'énergie, d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de dissimulation rue de Champirol dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier me sera soumis pour information avant exécution. Prendre acte que des travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. Et prendre acte que le versement du fonds de concours au ciel territoire d'énergie est effectué en une seule fois. Décider d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années et m'autoriser à signer toutes les pièces à intervenir. Avez-vous des questions sur cette action ? Donc en fait, la rue de Champirol est une des petites rues d'ailleurs, une des dernières rues qui nécessite d'enfouir, si vous voulez, l'ensemble des réseaux. Donc ben voilà, on l'a intégré cette année puisque on avait des arbitrages à rendre sur nos enveloppes, et puis qu'on avait privilégié cette rue sur le secteur de Dolly. Des questions par rapport à ça ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, cette décision est validée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous avons ensuite deux décisions, donc celle que vous aviez reçue et celle que vous avez trouvée sur table, relatives donc à l'acquisition par Epora. Donc l'objet, c'est l'approbation de l'acquisition par Epora, ou par Epora, donc établissement public foncier Ouest Rhône-Alpes, du tènement immobilier cadastré section AH numéro 163, 165, 166, 167 et 169, appartenant à M. Sylvain Liaume et Mme Stéphanie Moreno, et rétrocession à la commune. Je vous rappelle que la commune s'est engagée dans la réalisation d'une démarche de requalification de l'habitat et de commerce dans le centre-bourg. Ainsi, la commune a sollicité l'EPORA pour l'accompagner sur les opportunités d'aménagement liées à des acquisitions qui se présenteraient sur les tènements situés dans le périmètre concerné par le projet. Je vous rappelle le projet, c'est ce qu'on a identifié comme étant les îlots 2 et 3 du centre-bourg mitoyen de la mairie. L'EPORA est arrivé à un accord avec les propriétaires en vue de l'acquisition pour 385 000 euros du bien immobilier situé place Jean-Baptiste Père à Saint-Prix-en-Jarret, donc numéro cadastré comme je viens de les indiquer, pour une contenance de 284 mètres carrés. Je vous rappelle que ce bien sera rétrocédé à la commune ultérieurement, conformément au terme de la convention signée en date du 6 septembre 2021. Donc EPORA achète pour nous, détruit les constructions et nous rétrocède les terrains nus à bâtir. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition par l'EPORA du terrain immobilier suspensionné au prix de 385 000 euros. La rétrocession de l'immeuble objet de la présente délibération par l'EPORA à la commune aux conditions prévues dans la convention du 6 septembre 2021. Je vous précise également que les prix proposés par l'EPORA ont été bien évidemment adossés aux estimations des domaines. Donc voilà, pour ce premier, ensemble de lots, les propriétaires ont accepté le prix proposé par EPORA à hauteur de 385 000 euros. On va peut-être faire... Comment ? Oui, alors en fait, c'est toute la partie... Si c'est par rapport au tabac, on va dire c'est la partie gauche du tabac, quand on est en face. En fait, il y a... Je vais essayer de faire simple. La partie gauche, il y a deux propriétaires. Madame Rodriguez, Monsieur Lio et Madame Moreno. Au milieu, il y a donc Madame Carpentras qui a également le tabac. Et sur la droite, il y a Madame Gandin. Enfin, il y avait Madame Gandin. C'est un bien pour lequel EPORA avait déjà acheté au moment de la succession ce bien-là. Et puis il reste également la salle de l'atelier. Donc là, on est vraiment sur les deux lots avec Madame Rodriguez qui sont sur la gauche. On va peut-être lire la délibération pour Madame Rodriguez en même temps, puisque c'est exactement la même démarche. Donc, c'est l'acquisition par l'EPORA du tellement immobilier cadastré. Donc, là, cette fois-ci, AH numéro 163, 168 et 169. On retrouve des lots qui étaient en commun avec le précédent propriétaire, appartenant à M. Rodriguez Bernard, Mme Rodriguez Jacqueline, Mme Rodriguez Charlette, née Bafaro, et Mme Choma Marie-Laure, et rétrocession à la commune. Donc, je vous rappelle que nous nous sommes engagés dans la réalisation de démarches de requalification de l'habitat et de commerce dans le centre-bourg. Nous avons sollicité l'EPORA pour nous accompagner sur les opportunités d'aménagement liées à des acquisitions qui se présenteraient sur les tenements situés dans le périmètre concerné par le projet. Donc l'EPORA est arrivé à un accord avec les propriétaires en vue de l'acquisition cette fois-ci pour 227 000 euros du bien immobilier situé place Jean-Baptiste Père à Saint-Prix-en-Jarret, cadastré AH 163, 168 et 169 pour 183 mètres carrés. Ce bien sera rétrocédé à la commune ultérieurement, conformément au terme de la convention signée en date du 6 septembre 2021. Et je vous demande donc d'approuver l'acquisition par l'EPORA du tènement immobilier suspensionné au prix de 227 000 euros et la rétrocession à la commune, objet de la présente délibération par l'EPORA, à la commune et aux conditions prévues dans la convention du 6 septembre 2021. En ce qui concerne, donc on a compris que l'îlot qui concernait Mme Gandin, il est déjà propriété d'EPORA depuis 2018, je crois. Il reste donc sur cet îlot-là l'ensemble de la propriété de Mme Carpentras qui intègre le bar tabac. Donc les contacts ont été pris, les propositions financières ont été faites. Il restait simplement le calcul d'une indemnité de perte de chiffre d'affaires, ce qu'on appelle une indemnité d'éviction pour l'activité commerciale. Ce qui veut dire que si, en ce qui concerne, donc si on valide aujourd'hui ces acquisitions et que la démarche avec Mme Carpentras aboutit, on pourrait être, avant la fin de l'année, en situation d'avoir acquis l'intégralité de l'îlot 2. Donc stratégiquement, après, il faudra savoir si on attend que l'EPORA acquiert les lots constituant l'îlot 3 ou si on envisage tout de suite une action. Mais ça, ça sera déterminé ultérieurement. Donc, des questions sur ces deux acquisitions ? Donc, on est dans les fourchettes de prix, bien évidemment, proposés par les domaines, qui, par rapport aux estimations qui avaient été faites en 2010 et 2011, ont été quand même sensiblement actualisés. Comment ? À la hausse. À la hausse, bien évidemment. D'autres questions avant le vote ? Donc, on va voter deux fois, puisqu'il y a deux... Donc, en ce qui concerne l'acquisition par EPORA du tènement Guillaume Moreno, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, cette acquisition est validée à l'unanimité. Et ensuite, pour l'acquisition par EPORA du tènement en indivision Rodriguez-Choma, donc c'est la maman et puis ses enfants. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Cette décision est également validée. Je crois que la problématique, c'était que Mme Rodriguez était âgée. Elle résidait dans ses locaux. Et d'après ce qu'on nous avait dit, je crois que les enfants lui avaient trouvé un nouveau logement. Donc là aussi, c'était une préoccupation d'accompagnement qui est levée. Je vais passer la parole maintenant à Michel Bizassia pour le marché de la restauration scolaire.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Oui, effectivement, on a lancé pour la restauration scolaire et pour la restauration du centre de loisirs une nouvelle procédure d'appel pour la passation d'un marché de conception et de réalisation de repas et la mise à disposition d'un site situé sur Saint-Priest-en-Jarret ou à proximité immédiate. Ça fait suite au marché que nous avions signé il y a 3 ans avec le CDAT pour effectivement la mise à disposition de salles à l'intérieur du CDAT et la fourniture des repas. Donc c'est un marché réservé, c'est une procédure un peu spécifique qui s'adresse à des entreprises employant des personnes en situation de handicap, donc ce qui correspond tout à fait au cas du CDAT. Donc ce nouveau marché que nous avons lancé, il doit être conclu pour 3 années, du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2025, et sur une base de 40 000 repas maximum par an, sachant qu'on n'atteint pas ce chiffre, mais qu'on est un petit peu en dessous, bien que les effectifs cantines ont plutôt tendance à augmenter. Lors de la réunion du 25 août, donc la réunion de la commission d'appel d'offres, au vu de l'analyse technique et financière de l'offre, à savoir 6,60 € par repas, la commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché au centre départemental d'aide par le travail, qui est donc situé, le siège social du centre départemental est situé 73 rue Franklin à Saint-Étienne. Sachant que dans l'ancien marché, le prix du repas était de 6,20 €. Donc on est passé de 6,20 à 6,60, soit une augmentation de 6,45 %. Sachant que nous, lors de du conseil municipal du mois de juin ou juillet, je ne sais plus, début juillet, on a augmenté, nous, les tarifs de la cantine de 5 %. On se rend compte qu'on est effectivement, on va avoir une charge financière un petit peu plus importante du fait de l'augmentation de ce prix de repas. Mais effectivement, le directeur du CDAT nous a expliqué que lui, comme toutes les entreprises, est impacté par l'augmentation du coût des matières premières, c'est-à-dire de la nourriture, mais aussi par le coût des énergies, puisque le contrat qu'ils avaient passé avec leur producteur, avec leur fournisseur de gaz a été rompu par le fournisseur de gaz et qu'ils ont été obligés de chercher un petit peu en catastrophe quelqu'un qui était capable de les fournir et ça a été bien entendu pas au même prix. Donc effectivement, on nous demande un effort, on a demandé un effort aux parents et nous on attend de savoir effectivement de combien de repas et combien d'impact, sachant que sur un repas qui fait 6,60 €, le repas le plus cher, puisque vous savez que c'est indexé sur le quotient familial, le repas plus cher est à 4,70 €, sachant qu'on a calculé, nous, le coût de revient du repas, une fois qu'on y inclut nos frais de personnel, puisque parallèlement au personnel du CDAT, on a nos personnels des écoles qui accompagnent les enfants dans les cars, qui accompagnent les enfants jusqu'au CDAT et qui les font manger, enfin qui veillent et qui les aident au service et tout, plus le prix du transport scolaire pour les deux groupes scolaires de Georges Sand et Jean Massé, nous, le repas nous revient à 9,70 €. Donc, vous voyez, on a un gros delta quand même sur... voilà. Et j'ai effectivement fait un article sur le bulletin municipal pour expliquer un peu cette augmentation, parce que les parents ont l'impression que systématiquement, toutes les années, on augmente le tarif. On sait que, bon, pour beaucoup de familles, c'est un peu compliqué en ce moment, parce que malheureusement, il n'y a pas que ça qui augmente, mais on n'a pas bien le choix de faire autrement. Voilà. Donc, on vous demande on demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les pièces relatives au marché et à intervenir avec cette entreprise, c'est-à-dire le CDAT, pour un montant de 6,60 € hors taxes par repas.
Donc vous avez bien compris qu'entre le prix de revient pour la mairie, CDAT, personnel et transport, et le prix facturé aux parents, le prix le plus élevé, il reste au moins la moitié du prix réel à charge de la commune. Pour les plus forts, ça veut dire que c'est beaucoup plus pour les plus faibles. Claude, Bruno ?
Le prix du repas de 6,60 est bien bloqué pour les 3 ans. Il ne peut pas être revu à la hausse. Oui, il est bloqué. D'accord, merci.
Par contre, sur le contrat qu'on évoquait tout à l'heure sur les transports, avec la ICRT, il y a une indexation. D'autres questions ? Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc le nouveau barème et puis le marché avec le CDAT est validé à l'unanimité. Je vous en remercie.
Bonsoir Rémi Mounier. Donc on va prendre la délibération suivante qui concerne la convention territoriale globale, la CTG, et une convention qu'on va signer avec la ville de Villars. Pour vous compreniez bien l'objet de cette convention, je vais vous faire un petit rappel concernant donc cette convention territoriale globale. Jusqu'en 2020, notre commune était liée à la Caisse d'allocation familiale de la Loire par un contrat enfance-jeunesse qui définissait pour notre territoire un ensemble d'actions en faveur des familles, parents-enfants, en contrepartie d'un accompagnement technique et financier de la CAF. Donc nous avions ainsi donc l'accompagnement technique, le financement d'un poste de coordinateur à temps plein et financier. Nous bénéficions de subventions de la part de la Caisse d'allocation familiale qui nous permettait de diviser souvent quand le prix de nos différentes prestations du pôle enfance-jeunesse. Souvent, quand on parle du prix, on parle que le prix est défini est divisé en trois, une partie CAF, une partie famille et une partie municipalité. Depuis 2021, dans le cadre de la politique nationale de la Caisse nationale d'allocation familiale, déclinée au plan territorial, nous devons mettre en place une convention territoriale globale qui se substitue depuis début 2021 au contrat d'enfance-jeunesse. Une CTG est une convention de partenariat qui vise à renforcer la cohérence et l'efficacité des politiques d'action sociale et familiale sur un territoire donné. Cette CTG nous a amené une première nouveauté. Elle ne lie plus, comme le faisait le contrat enfant-jeunesse, la CAF à une seule commune, mais à plusieurs entités communales. Ainsi, après plusieurs mois de négociations, les communes de Roche-la-Molière, Saint-Genélaire, Villars, Saint-Priant-Jarret, La Tour-à-Jarret et Lettra intègrent une convention unique. La CTG définit des objectifs partagés au regard des besoins et ces objectifs sont sous quatre grandes familles. Aider les familles à concilier vie familiale et vie professionnelle et vie sociale, faciliter la relation parentale, le développement de l'enfant et soutenir les jeunes, accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et les conditions de logement, et enfin créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'insertion sociale et professionnelle. Afin de répondre à ces objectifs, le partenariat de la Convention mettra en place un comité de pilotage qui sera composé de représentants de la CAF, des communes, maires et coordinateurs. Et ce comité sera animé par la CAF et deux communes désignées chaque année. Pour cette année, ce sont les communes de Villars et Lettra qui assurent l'animation du comité de pilotage. La seconde nouveauté, et c'est là où on est concerné par la convention aujourd'hui, concerne donc le rôle de coordinateur, puisque poursuivre l'ensemble des projets et actions qui en découleront, une coordination technique unique est envisagée. C'est un poste, on va dire, hautement politique, puisque le coordinateur devrait être reconnu par l'ensemble des 6 communes, son rôle étant de bâtir, d'harmoniser et de suivre les actions sur la totalité des 6 territoires. Donc on s'est posé et on a réfléchi à pas mal de solutions pour ce coordinateur. Est-ce que ça faisait l'objet d'un recrutement externe? Est-ce qu'on faisait monter en compétence sur ce rôle-là un agent? On a sollicité, nous, certains agents de chez nous et qui ont décliné l'offre. Et puis, courant 2022, Villard a proposé à l'ensemble des 6 communes de mettre à disposition un agent de la ville de Villard. D'où la convention qu'on va établir aujourd'hui pour valider le rôle de coordinateur de cet agent municipal de Villard et la prise en charge d'une partie de son salaire dans le cadre des fonctions qu'il va faire pour la coordination. Donc je reprends les éléments de la délibération. Dans le cadre de la convention territoriale globale, signée en décembre dernier avec la CAF, la ville de Villard propose d'assumer la fonction de coopérateur. La délibération afférente à la création du poste de coopérateur a été approuvée lors du conseil municipal de Villard du 23 juin dernier. Cette délibération marque le partenariat entre les communes dans un dispositif contractuel avec la ville de Villard. L'agent municipal en charge de ce dossier sera détaché sur un 0,3 ETP, soit une journée et demie par semaine. Il a commencé sa mission et a rencontré les référents du territoire lors d'un dernier comité technique, COTEC. Les thématiques prioritaires, comme échangé lors du dernier COPIL, en date du 29 mars 2022, seront la petite enfance et la jeunesse. En cela, les premiers groupes de travail se réuniront sous l'autorité de la coopératrice en ce mois de septembre et le prochain COPIL sera programmé en décembre 2022. Concernant le volet financier, la participation des communes reposera sur la population de chacune, la CAF venant abonder sur le poste. Concrètement, le coût annuel du poste est de 44 964 euros, soit une dépense de 13 488 euros, déduction des aides de la CAF pour la CTG. Il restera donc 6 288 euros à se partager. La participation des communes s'organisera donc selon l'ordre décroissant par rapport à la taille de population. Roche-la-Molière, Villard, Saint-Genélaire, Saint-Prix-en-Jarret, Lettra et enfin la Tour-en-Jarret. Ce calcul ne prend pas en compte la valorisation des dépenses annexes, frais de déplacement, de formation et de repas, qu'il s'agira d'intégrer le cas échéant. La mairie de Villard émettra un titre de recette annuel englobant la totalité de la prise en charge par commune avec les justificatifs nécessaires à l'occasion des copies annuelles. Pour 2022, la demande interviendra pour 4 mois, à compter de septembre jusqu'à fin 2022. Je vous demande d'approuver cette proposition de pilotage de la commune de Villard et les cofinancements afférents.
Vous avez compris, hein, le coût global à temps plein d'un agent, c'est 44 964. On en prend 30%, ce qui fait est un coût global de 13 488. Donc la CAF en prend à peu près la moitié. Il reste aussi commune, l'autre moitié à financer à due proportion du nombre d'habitants.
Je préciserai juste une chose. Idéalement, on aurait aimé un temps de présence un peu plus important, puisque là, un jour et demi par semaine, ça ne fait pas beaucoup. Mais devant le manque de candidats et proposer un 0,50 à quelqu'un, c'était compliqué. On sait que la situation n'est peut-être pas forcément idéale, mais on part du principe que 0,3, c'est déjà mieux que rien. Et on verra à terme et à l'usage si le travail effectué par ce coopérateur rentre dans ce temps de travail défini. Aujourd'hui, on a cette proposition. Face à d'autres propositions qu'on n'avait pas, on s'est dit qu'il vaut mieux travailler là-dessus, puisque ça fait partie quand même des objectifs fixés par la CAF et sur lesquels sont basées la CTG. Corinne ?
Corinne Morgue, merci. Ma question est, il existait déjà ou il a été recruté pour le poste, le coordonnateur, je sais pas comment ça s'appelle.
Alors, l'agent existait déjà, était déjà en poste à Villars avec d'autres fonctions et sur, il me semble, un temps qui n'était pas complet d'ailleurs. Et du coup, ça a permis de le faire migrer sur une nouvelle fonction et de lui proposer un temps complet en rajoutant ses 0,3, sachant que ses missions actuelles sont quand même dans le cadre, bien entendu, de l'enfance et la jeunesse.
Et du coup, toujours Corinne Morgue, il travaille, il va donc échanger, si on prend du côté de Saint-Prié, avec les équipes d'Ayansen, c'est ça?
Parfaitement, oui.
Oui, à 0,30, vous avez compris que c'est pas un poste technique, en définitive. C'est un petit peu le débat qu'on a eu. Est-ce que ça devait être un hyper technicien qui supervisait nos agents techniques dans nos communes, ou plutôt un coordonnateur politique, ou de la politique à mettre en place? On a retenu cette option. On pouvait pas. Après, on était dans des débats, on vous en avait informé, hein, où les communes disaient non, moi je veux, c'est pas la peine, on va se débrouiller nous. Enfin, on revenait à une forme de jeu. De gestion individualisée, alors qu'on est forcément aujourd'hui dans le collectif. Donc, dans la mesure où Villars nous a proposé cette solution, on s'est dit, bon, on va commencer comme ça, puis on va bien voir comment ça se passe. Mais ça va être dur pour cette personne, parce que c'est quand même un agent administratif qui va devoir, je dirais, animer et relayer une politique partagée, mais au plan de chaque territoire. Donc, on va forcément, par moment, avoir quelques difficultés, simplement compte tenu de la disparité de nos structures et de nos moyens. Donc on verra. D'autres questions par rapport à la signature de cet avenant de la CTG en définitive, hein. C'est une convention de partenariat entre les 6 communes concernées et la CAF. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, nous validons cet accord, cette convention avec les 6 communes partenaires de la CTG. Je vais passer maintenant la parole à Claude Bruneau pour le rapport d'activité Novim.
Oui, bonsoir. Je reviens comme chaque année avec ce qui vous passionne tous, le rapport de gestion de Novim. Donc, le Code général des collectivités territoriales précise dans son article L1524-5 que les organes délibérants des collectivités territoriales, pour ce qui nous concerne donc le conseil municipal, et de leurs groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration. Alors, il vous avait été précisé, lorsque vous avez reçu les documents, que ce rapport du commissaire aux comptes était disponible au secrétariat général. Personne ne doute que vous l'avez tous consulté, étudié à fond et que, bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, afin de satisfaire à cette obligation, il convient de vous prononcer sur les comptes de l'exercice 2021 de Novim, comptes qui ont été validés par l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022. Voilà. Donc, je vous rappelle que Novim, qui est l'ancienne SEDL, c'est une société d'économie mixte qui est un opérateur de l'aménagement et de la construction qui est au service et du développement et de l'attractivité des territoires. La particularité, c'est que son statut de société d'économie mixte lui confère un peu la capacité de s'associer à des partenaires pour un projet spécifique. Alors, une société d'économie mixte comporte forcément une majorité d'actionnariat public. Alors, pour ce qui concerne Novim, il y a donc 23 actionnaires publics et il y a 12 actionnaires privés.
Donc, ça fait partie des décisions, hein, qu'on soumet chaque année, puisque c'est la suite logique de ces partenariats. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, on approuve le rapport d'activité de la Novim. Le point suivant, je dirais presque maintenant traditionnellement, comme à chaque conseil, c'est celui de l'actualisation donc, du tableau des effectifs. Par délibération numéro 22-06-07 du 7 juin 2022, trois postes de rédacteurs avaient été ouverts pour permettre la nomination d'agents par voie de promotion interne. Donc, promotion interne soumise à validation du centre de gestion de la Loire. Le centre de gestion n'a validé aucune inscription sur liste d'aptitude de ce grade pour notre collectivité. En conséquence, les trois postes ouverts au mois de juin doivent être retirés. Par délibération 22-07-17 du 4 juillet 2022, un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale a été ouvert à temps non complet, à raison de 22 heures hebdomadaires, pour remplacer un agent affecté au jardin d'enfants ayant fait valoir ses droits à la retraite. La commune est confrontée à une recherche infructueuse de candidats sur ce temps de travail. Il est nécessaire de porter le temps de travail du poste auxiliaire de puériculture de classe normale ouvert à 80%. Compte tenu de la nomination d'agents dans leur grade d'avancement prévu par délibération 22-06-07, il est proposé la suppression d'un poste d'attaché et de trois postes d'adjoint technique et d'un poste d'éducateur de jeunes enfants. Ça fait partie, comme je vous le dis à chaque fois, de l'actualisation. On anticipe des déroulements de carrière ou des nominations. Si ça a lieu, on valide. Et donc, les anciens postes sont supprimés. Et s'il n'y a pas de nomination, on supprime les postes qu'on avait prévus. Pour permettre d'engager la procédure de recrutement pour assurer le remplacement d'un adjoint du patrimoine principal de deuxième classe en disponibilité pour convenance personnelle, un poste sur chacun des grades du cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine ont été ouverts à temps non complet, à raison de 80% du temps plein, par délibération 22-07-17. Il est décidé du recrutement d'un adjoint territorial du patrimoine. Il convient donc de retirer du tableau des effectifs un poste d'adjoint du patrimoine principal de deuxième classe et un poste d'adjoint du patrimoine principal de première classe, tous deux à temps non complet. Enfin, un animateur principal de première classe est muté dans une autre collectivité sur sa demande au 15 août 2022. Son poste est donc retiré du tableau des effectifs. Donc ces décisions traduisent simplement l'actualisation du tableau entre une personne qui demande une mise en disponibilité et son temps de travail, on le répartit sur deux de ses collègues, et puis un autre agent part par mutation. Donc ce cas-là, on recrée un poste pour recruter. Et puis là, on a eu un départ. En l'occurrence, je crois bien que ça devait être Blandine, c'est ça, qui était, ça demande, hein, mutée à Saint-Jean-Bonnefonds. Et donc, son poste, bien évidemment, est retiré de nos effectifs. Et puis, quand on aura recruté quelqu'un pour la remplacer, on vous proposera à nouveau une actualisation du tableau des effectifs. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ces mouvements de personnel, Corinne Mourgue?
Ah ben, pardon. Blanche Hubert, excusez-moi, je voudrais savoir ce qu'elle est, le travail d'un adjoint du patrimoine.
Alors, c'est une appellation fonction publique. Pour nous, c'est des personnes qui travaillent essentiellement dans le secteur culturel, en particulier la médiathèque.
D'accord. Voilà.
Après, ça, ce sont des appellations. Après, on a le plus haut niveau, c'est quoi par rapport, par exemple, Élise, elle est conservatrice ou quelque chose comme ça, non? Enfin, il y a des différentes appellations en fonction des métiers.
D'accord.
Des métiers et des diplômes, bien évidemment, dont les personnes sont titulaires. Merci. Corinne Mourgue.
Merci, Hubert. Corinne Mourgue, du coup, c'est quand même un peu compliqué à comprendre, mais on progresse. Je trouve qu'on progresse. Tu expliques bien. Juste sur le premier alinéa, sur si je comprends bien, le centre de gestion n'a validé aucune inscription sur liste d'aptitude pour ce grade, telle qu'elle est écrite la phrase. Est-ce qu'on connaît les motifs de cette non-inscription? Non, c'est trop facile ma question. Oui. Je vois que ça vous fait sourire.
C'est une excellente question. En fait, si vous voulez, il y a, je dirais, trois profils sur les évolutions de carrière. Les personnes qui passent l'examen ou qui demandent à être mises en disponibilité pour partir, par exemple, dans le privé, ou les mutations. Il y a ceux ensuite qui passent des concours. Je dis bien des concours, pas des examens. Et où là, il appartient à la collectivité, si la personne réussit au concours, de la nommer ou pas. L'engagement qu'on avait pris dès 2014 avec Jean-Michel Pau, c'est de dire, toute personne qui passe un concours, il réussit, on s'engage, à mesure du possible, bien évidemment, à la nommer sur le poste auquel elle accède grâce à ce concours. Et puis le troisième, ce sont des promotions internes, C'est-à-dire que c'est la commune, donc on est, nous, affiliés au centre de gestion de la Loire. Dans les grosses collectivités qui ne dépendent pas du centre de gestion, elles font à peu près ce qu'elles veulent. Mais nous, on formule nos demandes au regard d'ailleurs de critères qui ont été, cette année, je dirais, densifiés et soi-disant objectivés. C'est-à-dire qu'on va, pour chaque agent, noter tout un ensemble de paramètres. On avait présenté ces paramètres en comité technique, qui nous permet d'attribuer une note. Et c'est fort de cette note qu'on va appuyer une demande pour passer, par exemple, d'une catégorie C à une catégorie B. Et c'est le centre de gestion qui statue dans le cadre d'une commission paritaire composée de maires, mandataires du centre de gestion et de représentants des personnels, donc des représentants syndicaux. Et on sait très bien que dans certains métiers, c'est sursaturé. Quoi. De toute façon, passer de la catégorie C à la catégorie B, s'il y a 90 ou 100 demandes pour la Loire chaque année et qu'il y en a 5, on rentre, non pas dans la boîte noire, mais dans la concertation entre les membres de cette commission qui vont arbitrer. Donc le fait de passer par un nouveau processus qui permettait d'objectiver, c'est intéressant parce qu'on mettait des notes. Mais si on présente quelqu'un, vous avez bien compris que généralement on est très proche de la note maximale, sinon on ne la présenterait pas. Sauf si elle insiste vraiment, et c'est à ses risques et périls. Donc je pense que toutes les communes font pareil. Et après, les secrets de ces délibérations nous échappent, puisque il y a quelques années, on avait une surprise, puisqu'on avait un agent qui voulait absolument qu'on demande sa mutation en catégorie A. On avait dit on peut y aller, on risque rien, et elle avait été nommée. C'est comme ça. Donc après, l'idée, c'est un petit peu de mieux comprendre. Alors, et ça sera hors PV, la personne qu'on a recrutée à la comptabilité dernièrement vient du centre de gestion. Donc je pense que l'an prochain, elle pourra peut-être nous aider dans une certaine approche des dossiers, des arguments à mettre en évidence et ceux sur lesquels il ne faut pas trop insister. Je ne sais pas, ça ne changera peut-être rien, mais bon. Nous, ça fait... Je veux dire, en fait, très concrètement, ceux sur lesquels on insiste, c'est tous nos agents en catégorie C qui, concrètement, au quotidien, sont chefs de service ou ont une activité d'encadrement. Voilà. Et qui sont, pour certains, malheureusement, au grand maximum de leur catégorie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus leur donner un seul euro. Alors, pas de déroulement de carrière, même au niveau des primes. Ils sont bloqués. Voilà. Et je ne comprends pas bien, mais ça, Frédéric a essayé de me l'expliquer plusieurs fois, dans la mesure où c'est nous qui rémunérons. Pourquoi passer par ce filtre ? Et puis on est peut-être quand même les mieux placés pour pouvoir apprécier la qualité d'un agent et souhaiter l'accompagner dans son déroulement de carrière. Mais bon, comme ça. Oui, il y a des quotas, d'accord, mais il y a des quotas dans toutes les fonctions publiques. Ça, je l'entends bien. Mais bon, au bout du compte, qui paye ? C'est nous l'employeur. Bon. Voilà. Donc voilà, un petit peu cette mécanique, mais ça, on le retirera de la verbalisation. Je crois qu'on a fini l'ordre du jour du Conseil. Comment ? On va le voter, oui. Non, même pas d'ailleurs. Si on le vote, eh ben on va le voter comme chaque fois. Donc, qui est contre cette actualisation du tableau de nos effectifs ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on est pour à l'unanimité. Merci. Des petites informations. D'une part, vous savez qu'on a eu une tornade, une tempête, un cyclone. Bon, vous avez suivi un petit peu les différents événements. Moi, je voulais remercier officiellement, d'une part, alors on a eu dès le lendemain une audioconférence avec la préfecture et le conseil départemental. Je voulais remercier Saint-Étienne Métropole qui nous ont mis très rapidement et du matériel et du personnel à disposition sur notre territoire. Et également les communes de Roche-la-Molière et Saint-Genélaire qui nous ont prêté leur balayeuse pendant 2 jours avec le chauffeur. La nôtre étant immobilisée sur Villard. Donc ça démontre bien quand même la solidarité qui s'est mise en place entre les communes et l'encadre de nos instances collectives. Bien évidemment, je voulais remercier les habitants qui, spontanément, ont dit nous, on va dégager les rues, on va ramasser des branches. D'ailleurs, le lendemain, le SDIS a considéré qu'à Saint-Priest-en-Jarret, qui était la commune la plus touchée au regard du SDIS, ont apprécié. Et l'intervention et de la police et des services techniques et des habitants qui leur ont énormément facilité l'accès aux différents sites. Donc ça, ça me semblait important de le dire. Après, il y a le problème du classement en catastrophe naturelle. Je ne vais pas revenir sur les avantages et les inconvénients. On les a présentés sur Iliwap, sur Facebook. Voilà. En fait, il n'y a pas d'avantage à être en catastrophe naturelle, si ce n'est une accélération imposée aux compagnies d'assurance. Par contre, sur les 12 communes concernées, pour lesquelles la préfecture a déposé les demandes en même temps auprès du ministère de l'Intérieur, une semaine après, deux communes sont passées avec les communes corses, à savoir Saint-Étienne et Grand-Croix. Donc là, on a eu, à la demande de notre député Quentin Bataillon, une réunion là aussi en audio avec les conseillers de M. Darmanin. On a reparlé de tout ça. Et on a quand même mis en évidence un problème de cohérence politique et d'affichage politique. Les enjeux économiques, il n'y en a pratiquement pas. On ne comprendrait pas que deux communes aient pu être classées en catastrophe naturelle et pas les autres. Et comme j'ai dit, la tornade, place de la Terrasse, si c'est une catastrophe naturelle pour Saint-Étienne, de l'autre côté de la rue, à mon avis, c'est pareil pour Saint-Prix. Mais on verra bien. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils s'engageaient à présenter les 10 demandes complémentaires. Alors, l'argument, c'est de dire, il nous manquait des informations de Météo France. Si on avait dû statuer sur vos dossiers, vous auriez été rejetés. Mais les informations de Météo France, pour les 10 communes, ce sont exactement les mêmes que celles qui ont été demandées pour Saint-Étienne et Grand-Croix. Bon. Donc, on verra. Les dossiers devraient passer le 13 septembre prochain. Ils sont engagés à ce que tout de suite la préfecture soit prévenue des décisions pour nous les retourner. Bon, bah, c'est positif ou c'est négatif. Hein. Voilà, donc, alors simplement, je ne parle pas d'autres problématiques. Bon. Donc, prochain rendez-vous. Donc, le 19 septembre, nous avons une plénière au cours de laquelle nous accueillerons Quentin Bataillon, notre nouveau député, pour qu'il se présente à vous et vous puissiez échanger avec lui, lui poser des questions, etc. À 19h toujours, plénière. Et nous vous présenterons aussi, avant le conseil qui statuera, les propositions qui nous ont été faites pour l'acquisition du terrain du Charpennais. Donc nous avons à ce jour 6 propositions qui sont finalisées. Et donc, nous avons demandé à, je dirais, l'opérateur qui nous semble le plus intéressant d'être là aussi physiquement pour parler de son projet. Le 24 octobre, nous avons à nouveau une plénière au cours de laquelle nous vous présenterons les propositions d'acquisition du site Jean Massé. Bon, ça ne sera peut-être pas exhaustif, on n'aura peut-être pas toutes les propositions, mais Jacques m'a dit qu'on en aura au minimum 2, voire 3. Et enfin, le 7 novembre prochain, nous aurons le conseil municipal. D'autres questions? Comment? Oui, il y a le séminaire le samedi 15 octobre, mais ça, on vous le rappellera. Alors après, on verra sur les modalités. Bon, on le fait où? Est-ce qu'on prévoit une restauration ensemble. On va réfléchir avec Michel des modalités pratiques de l'organisation de ce séminaire, puis surtout de l'ordre du jour. Ça deviendra un séminaire quand même, peut-être. L'an dernier, on avait défini notre plan pluriannuel d'investissement, les grands projets, les financements de façon très globale. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, et en particulier la réalité budgétaire du projet Jules Ferry, puisque nous avons rencontré l'architecte Riva vendredi dernier sur des bases actualisées budgétaires. Bon. Alors, on augmente de près de 20% le budget initial, mais on a trouvé des points où on allait pouvoir faire des économies. Enfin, voilà. On a échangé avec lui. De toute façon, s'il y a un projet qu'on doit réaliser, on a dit que c'était celui-ci. Et il faut qu'il démarre maintenant le plus vite possible. Il nous a dit que compte tenu des délais, on pouvait peut-être envisager un démarrage concret mars-avril. Parce qu'après, il y a tous les délais, obtention du permis de construire, etc. Ça va être court hein, par rapport à septembre 2024, pour peu qu'il y ait des intempéries, qu'il y ait des problématiques de rupture d'approvisionnement peut-être sur certains matériaux. Et puis, il va falloir qu'on gère tout l'environnement, et en particulier la gestion du maintien, bien évidemment, de la scolarité dans les écoles. Si on nous dit qu'il faut déplacer une classe ou deux classes pendant 15 jours, on sait faire. Si on nous dit que c'est toute une année scolaire, il faut voir le projet, les problématiques différemment. Donc voilà, ça va être vraiment très concret. et avoir l'accord des enseignants, bien évidemment. Enfin, ceux de Jules Ferry qui ont été associés au pré-projet, enfin, au projet préalable, ont été très satisfaits de cette démarche. L'architecte a bien entendu leurs besoins, et y compris d'ailleurs nos personnels techniques, hein, des écoles, qui ont été bien associés. C'était une belle démarche. Puis je pense qu'au bout du compte, on aura une belle réalisation. Et après, pour les coûts, ben, on va voir. Voilà. Ben, il me reste à vous remercier, vous souhaiter un bon retour, et puis de prendre des forces pour cet hiver qui s'annonce. Prenez des réserves. Vous savez ce que font les ours? Ils mangent beaucoup pour pouvoir dormir sans tenir compte des conditions climatiques. Eh bien, il va falloir qu'on s'y prépare.